Vous allez entendre la traduction française d'un message de William Marion Branham intitulé « L'imitation du christianisme » prêché au Tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, USA, le 20 janvier 1957. Il est bien connu que le trio Neuville est l'un des meilleurs trios de la nation. C'est vrai, c'est certain. Frère Neuville dit, j'en doute, note de l'éditeur. Combien ont entendu l'émission d'hier? Je suis un ancien vétéran, je prêche depuis plus de 20 ans et j'ai entendu beaucoup de sermons. Mais je crois avoir entendu hier de notre pasteur, frère Neuville, l'un des sermons les plus appropriés pour le jour dans lequel nous vivons. Ceux qui ne l'ont pas entendu ont passé à côté d'un trésor d'une grande valeur. Ça a vraiment touché mon cœur. Et alors que ma femme était en train de faire la vaisselle, Johnny, je la faisais avec elle. Ça ne fait pas de tort. Dolores te fait laver la vaisselle aussi, non? Tandis que je l'aidais à faire la vaisselle, on a dû s'arrêter tous les deux pour se faire remarquer combien le Seigneur utilisait notre frère dans son message. C'était hier à la radio. Et si jamais j'ai entendu un grand message, c'était bien celui-là. Et j'étais ravi de savoir que j'étais associé dans l'œuvre du Seigneur à celui que le Seigneur utilisait pour apporter ce message. Aussi, le quatuor, ou plutôt le trio, était superbe comme toujours, tout comme notre pasteur. Et nous apprécions cela de tout notre cœur et nous prions que dans l'avenir, Dieu continuera d'être avec notre frère et lui accordera de ses grands et puissants messages, à la fois par les chants et par la parole. Aussi, à cause des prières que vous avez priées à notre intention durant le temps que nous avons passé dans les champs missionnaires, le Seigneur a abondamment et grandement béni. Et il me fait plaisir de vous rapporter que le Seigneur a fait beaucoup durant ses services. Des âmes ont été sauvées, et la foi des gens a rencontré l'exigence de la puissance de guérison de Dieu. Et ils ont été guéris. Et comme nous venons de gravir une étape de plus, nous retournerons plonger dans les champs missionnaires la semaine prochaine à Lima, en Ohio, pour des baptistes. Et nous désirons certainement vos prières pour les rencontres de cette semaine à Lima. Et de là, nous reviendrons pour nous rendre à Evansville, en Indiana, pour une seule soirée. Ce sera le 3 février pour les hommes d'affaires chrétiens. Ils ont levé un nouveau chapiteau où je prêcherai le matin. Et le soir, s'il neigeait ou si la température était mauvaise au point de m'empêcher de revenir, eh bien, je resterai pour les services du soir. Sinon, je serai ici au tabernacle le soir du 3 février, le Seigneur voulant. Le 3 février. Ensuite, du 10 au 17, c'est à Minneapolis, et le 16 au matin, ce sera au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. Aussi, nous anticipons d'avoir un temps merveilleux lors de ce déjeuner, tout comme à la réunion. Nous reviendrons pour descendre à Shreveport, ensuite au Madison Square Garden de Phoenix, en Arizona, avec la pleine coopération de tous les ministres de l'association de la vallée Maricopa, dans ce beau et grand Madison Square Garden, là à Phoenix, où les réunions seront tenues. Et de là, à la vallée de San Fernando, avec frère Espinoza et tous les frères mexicains. Et ensuite, un certain lac, j'oublie le nom, le lac Clear, pour 3 soirs. Et ensuite, à Oakland, au grand centre civique, qui peut asseoir presque 10 000 personnes, parrainé par l'association ministérielle de Twin City. En ceci, nous remercions Dieu et prions qu'il nous accordera un grand déversement de ses bénédictions. Une note de mon secrétaire, juste un moment, voyez, je dois éloigner ceci de moi, très bien. Oui, c'est que quelqu'un veut me rencontrer après la réunion. Des ministres sont venus, les frères Martin. Très bien, frère, nous nous verrons tout de suite après le service dans le bureau des diacres. Maintenant, j'aime la parole, parce que la parole est la vérité de Dieu. Hier, je discutais avec frère et sœur Cox. Je pense que ce frère est présent. Oui, il est présent ce matin. Je ne sais pas si Sir Cox est ici ou non, mais nous discutions de choses de la vie chrétienne, comme les chrétiens le font habituellement quand ils se rencontrent. Et la discussion toucha le point des chrétiens qui parlent contre d'autres citoyens du royaume. Comment nous entendions des émissions parfois qui démolissaient tout simplement les autres, allant jusqu'à les nommer et dire d'eux qu'ils ne sont pas chrétiens, et ainsi de suite. Ce n'est que de l'enfantillage, c'est tout. Ils ne sont que des enfants, et nous devrions avoir grandi, c'est exact. Et les adultes ne parlent pas comme cela. Mais nous discutions, frère Cox et moi, et j'ai dit, « Eh bien, j'ai résolu en mon cœur de prêcher contre le péché, juste le péché. » Et j'en ai parlé sous tous ses angles. Et Dieu placera cela où il se doit. On rapporte que dans le sud, il y eut un jeune garçon qui s'était agenouillé dans un sillon d'une terre qu'il venait de labourer. Et comme un ecclésiastique se trouvait à passer, il entendit réciter l'alphabet. A, B, C, D, et ainsi de suite. Aussi cela étonna beaucoup l'ecclésiastique qu'il entendit réciter l'alphabet sur ses genoux et dire « Amen » à la fin. Et comme il se relevait, l'homme lui demanda « Fiston, je suis le serviteur du Seigneur, et je t'ai entendu prier, mais tu ne faisais que réciter l'alphabet. Et je me demandais pourquoi tu ne faisais que réciter l'alphabet. » Il lui répondit, « Monsieur, je ne sais pas prier. » Il a dit, « Je n'ai jamais prié, mais mon père et ma mère priaient, mais ils sont rendus au ciel. » Il dit, « Ma mère est morte, alors que je n'étais qu'un bout de chou, mais je me rappelle l'avoir entendu prier quand elle était en difficulté. Elle allait au Seigneur et priait. Mais elle est morte alors que j'étais si jeune qu'elle n'a pas pu m'apprendre à prier. Et on m'a remis entre les mains d'une personne qui n'est pas gentille, qui me bat et me maltraite. Et j'ai pensé qu'une fois que j'aurais appris mon ABC, si je pouvais prendre tous les mots et prononcer toutes les lettres, que peut-être il pourrait les rassembler et comprendre ce que je veux dire. C'est là la prière de la sincérité. Certainement qu'il pourrait les mettre ensemble. Ce n'est pas comment nous prions de nos lèvres, c'est l'intention de notre cœur que Dieu entend. Il peut ne pas entendre nos lèvres, il entend l'intention, quel est le motif de notre cœur. Donc hier j'ai été vraiment touché cette fois, étant donné que c'est ici au tabernacle, je voudrais exprimer des choses qui seraient, je pense, d'une aide ou d'un bienfait. Et s'il arrivait que je dise quelque chose de déplaisant, je ne voudrais certainement pas le dire dans le but de déplaire. Dans le cas où ce serait contraire à la croyance de quelqu'un, mais je voudrais seulement l'exprimer par amour, et pour peut-être essayer d'éclaircir le point en question. Par exemple, comme pour ceux qui ne croient pas à la guérison divine, et ainsi de suite. Aussi, si vous n'y croyez pas, et moi étant en train de dire que j'y crois, ce ne serait pas que je veuille vous embarrasser, mais plutôt pour essayer de l'exprimer à ceux qui y croient, si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, priant pour que Dieu comprenne. Je sais qu'il comprend. Il comprend. Nous savons cela. Eh bien, je parlais à un érudit du Canada. Et comme nous le savons, les Canadiens sont, si vous les connaissez, si vous êtes déjà entré en contact avec eux, ils sont scolarisés, des plus scolarisés la plupart d'entre eux. Et ils n'ont pas les troubles là-bas que nous avons ici. Puis j'ai découvert que cet homme, quoique pas plus âgé que moi, 50 ans ou plus, qu'il était tout grisonnant. Sa moustache était grise, bien qu'il n'avait pas encore 50 ans. Je lui ai dit, « Mon frère, quand il est venu à la chambre où je restais, c'était le pasteur d'une église. » Je lui ai dit en le regardant, « Et il y a à peine quelques années à Saskatoon, lors de la grande réunion que nous avions tenue ensemble à la grande aréna, à mes tout premiers débuts dans l'évangélisation, il avait les cheveux noirs et la moustache noire. Il avait alors deux jeunes filles, elles se sont mariées depuis. » Elles ont des enfants. Aussi, je me suis dit en moi-même, mais qu'est-il arrivé? Il a dit, frère Branham, il y a environ 2 ans, j'ai cru que le Seigneur m'avait appelé à œuvrer aux États-Unis. Aussi, je me suis rendu sur la côte ouest et me suis associé à une certaine émission diffusée à l'échelle nationale. Et il dit, quand j'ai vu avec quelle malhonnêteté ils utilisaient les fonds qui leur étaient envoyés comme chrétiens, je n'ai tout simplement pas pu rester là plus longtemps. Je suis parti. Et je me suis associé à une autre émission. Il a dit, c'était tout comme sauter de la poêle dans le feu. Il ajouta, ensuite, j'ai continué à découvrir tant de choses. Il dit, découvrir la faiblesse de la chair américaine. Et j'ai dit, frère, c'est vrai, on n'a pas de milieu ici. Nous avons la classe vraiment froide, à cheval sur les convenances, et indifférente, ou la fanatique à l'extrême. Et on n'a pas le milieu. C'est la triste réalité. Et il ajouta, ensuite je suis venu ici. Il a dit, frère Branham, aussitôt que je suis arrivé à mon premier message, j'ai découvert qu'il jouait du piano et sautait par-dessus les chaises. Et alors là, j'ai commencé à me demander. Il a dit, ensuite, à travers tout cela, j'ai essayé de prêcher l'évangile, de rester juste dans la parole. Et quand cela s'est fait, il est arrivé qu'après un bout de temps, le Seigneur m'a laissé entrer dans l'onction et le Saint-Esprit est descendu parmi nous dans l'amour et la paix de Dieu se mit à se répandre dans l'assemblée. Et il ajouta, ensuite j'ai dit, maintenant que le Saint-Esprit est ici, nous allons donc adorer le Seigneur et concentrer nos vies sur Dieu. Il dit, un tout jeune homme qui ne pouvait pas voir plus loin que le bout de son nez s'est accouru à la chair et a dit, amen, prédicateur, c'est vrai. Regarde, l'huile a coulé de mes mains toute la matinée. Alléluia! Que les gens s'avancent et je les oindrai de cette huile pour leur guérison. Il a dit, frère Branham, je lui ai dit, fiston, trouve-toi un siège, assieds-toi. Il a dit, savez-vous ce qui est arrivé? L'ancien en chef m'a dit que c'est moi qui devais me trouver un siège et m'asseoir. Il ajouta, comment pourrons-nous jamais, comment vous ou les prédicateurs qui tentez de rester entre les deux fanatismes, peuvent-ils équilibrer le poids? Je lui ai répondu, c'est juste la grâce de Dieu. Oh, quel endroit! Et l'homme porta ses mains à son visage et pleura. Ma femme et moi étions là, et les larmes coulaient sur son pantalon tant il pleurait. Il dit, frère Branham, je m'en retourne à Saskatoon pour en finir avec ce ramassis de mauvais esprits. Et j'ai dit, c'est vrai, les groupes américains sociaux et intellectuels s'opposent tellement à l'autre groupe, et cet autre groupe s'est dirigé vers les fables au point où il est difficile de trouver une voie d'accès au véritable évangile pour en obtenir la prééminence. En revenant de chez frère Cox, il n'est pas au courant de ceci, sur mon chemin de retour, je me suis dit, Seigneur, c'est tellement vrai. Et combien cela a été dur d'essayer d'amener ce véritable évangile aux gens, tirant des deux côtés, essayant de rester au milieu de la route, comme nous avons combattu pour cela depuis le jour où la pierre angulaire a été posée. Voyez, j'ai pensé, qu'en est-il de ces Américains d'ici? Que leur arrivera-t-il? Et il m'a semblé que quelque chose m'ait simplement parlé, disant, que fais-tu? Que t'importe? Toi, suis-moi. Et après, la vision du jour où je posais la pierre angulaire me revint à l'esprit. À mon retour à la maison, j'ai rappelé cela à ma femme. Combien se souviennent de la vision du matin de la pierre angulaire? C'est maintenant enfoui là dans la pierre angulaire. Je pense que cela fait environ 23 ans. J'étais juste de l'autre côté de la rue ici. Je m'étais réveillé aux environs de 7 heures. C'était en juin, je crois, ou en juillet, quand la première pierre a été posée. Et ce matin-là, regardant vers l'est, au lever du soleil, j'étais en train de louer le Seigneur parce que la première pierre du tabernacle allait enfin être posée. Monsieur Markham et les autres avaient aidé, et plusieurs d'entre eux avaient creusé la fondation et ainsi de suite. Et j'allais poser la pierre angulaire. Nous avons les photographies de cela. Et chacun était à y mettre un petit quelque chose. Des catholiques aussi sont venus et y ont mis des grains de chapelet, et ainsi de suite, ce qu'ils avaient à déposer dans cette pierre angulaire. Mais ce matin-là, le Saint-Esprit me dit, alors que j'étais couché, à l'époque, je n'appelais pas cela une vision. Je disais que c'était une transe, et je vis une vision qui parla et me dit que mon travail se situerait entre les deux facultés du pentecôtisme, les trinitaires et les unitaires, et qu'il y avait une cavité des deux côtés à remplir. Je ne les ai pas greffés, j'en ai juste pris de chaque arbre et les ai plantés en terre. Et haut dans les cieux se sont élevés les grands arbres, grandissant rapidement, et leurs fruits tombèrent et ils étaient délicieux. J'en mangeais. Et à la croix, juste devant moi, c'était tout couvert de fruits. Et après, quand je suis parvenu à l'endroit, le Saint-Esprit descendit à la cime des arbres dans un tremblement et un rugissement. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée 4. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ceci n'est pas ton tabernacle. Et j'ai dit, où? Et j'ai vu le tabernacle tel il est aujourd'hui. J'avais dit, où est mon tabernacle? Et il me plaça sous un ciel bleu clair, et lui fait l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. l'exercice n'est pas arrivé mot pour mot. C'est pourquoi j'ai essayé de rester strictement avec la parole. Et ce sera mon sujet de ce soir, sur la parole. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, je désire approcher un autre sujet, mais avant de l'approcher, pendant que vous tournez à Ézéchiel au 6e chapitre, j'aimerais dire ceci comme approche. Partout, j'ai essayé fortement de garder la ligne de la parole. Aussi, priez pour moi, afin que je sois toujours fidèle à la parole. Oui, à la parole. Très bien. Maintenant, dans Ézéchiel, le 36e chapitre, et nous désirons lire en commençant 26e verset, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et ensuite, au 27e, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Courbons la tête juste avant d'approcher ceci. Notre Père céleste, c'est avec reconnaissance de cœur qu'aujourd'hui nous nous approchons avec tendresse et respect de ce moment sacré. Car comment savons-nous si cette heure ne déterminera pas la destination éternelle d'une âme qui est présente ici, quand on sait que le prix de cette âme est comparable à plusieurs milliers de mondes? Aussi nous prions, Père, que tu nous feras nous approcher dans le respect et la solennité et dans une attitude de prière. Aussi, il pourrait y avoir des malades assis ici, qui, en ce jour, dans leur attitude qu'ils auront reçue à travers cette parole, devra déterminer combien de temps il leur reste à passer sur la terre. Aussi, réalisons-nous le caractère sacré de ce moment. Et nous demandons que ta grande présence nous soigne tous, voyant que nous sommes terrestres, que tu nous as pris de la terre et qu'à la terre nous retournerons. Et c'est uniquement dans ce vase de terre que nous avons le privilège de te servir et d'en gagner d'autres à toi. Aussi te demandons-nous de permettre à nos cœurs d'être disposés à ta parole, et que le Saint-Esprit la prenne et nous en donne comme nous en avons besoin. Car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Si je devais nommer pour quelques instants ce matin, ma femme m'a dit l'autre jour, « Billy, si tu abrégeais tes sermons à 30 minutes au lieu de 2h30, je pense que ce serait plus efficace. » Je lui ai répondu, « Autant que je puisse t'aimer, et autant que je puisse savoir que c'est vrai, mais vois-tu, je m'en remets uniquement à la conduite du Saint-Esprit. Et je ne sais pas mieux que de continuer à prêcher quand il me pousse à continuer. » Donc c'est de la façon que je dois le faire. Et si je m'arrête, quand il est en train de répandre ses bénédictions, et quand il ne le fait pas, alors je me sens misérable, et ma congrégation aussi. Et c'est ainsi pour n'importe quel ministre qui prêche par inspiration. Si je devais nommer mon sujet ce matin, ce serait l'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Dans cette écriture, laquelle est la parole de Dieu, nous lisons ici que le prophète parlait d'un nouveau jour. Maintenant, Ézéchiel était en train de prophétiser ou prédire ce qui allait se passer dans un âge à venir, pas en son âge. Un prophète est un voyant et s'identifie dans la Bible à l'aigle qui s'élève très haut dans les airs. Et plus on monte haut, et plus on peut voir loin. L'aigle vole aussi plus haut que tout autre oiseau. Il n'est pas d'oiseau qui puisse suivre l'aigle. Il est aussi doté d'une excellente vue. Le faucon n'a pas de chance à cause de sa vue. Il ne pourrait pas non plus supporter l'altitude où vole l'aigle. Il mourrait. Il n'a pas été conçu comme l'aigle. Donc le faucon est tout comme les autres oiseaux, mais l'aigle a été fait différemment parce qu'il est conçu pour les hautes altitudes. Il peut monter si haut qu'à cette hauteur il verra des choses que les autres oiseaux ne peuvent voir parce qu'il est plus haut. Et Dieu, en faisant l'aigle, l'a fait dans ce but, parce que son nid est construit plus haut que celui des autres. Ses petits sont là-haut, dans le nid, et ils se nourrissent au sol. Donc, afin de voir venir la tempête ou le danger, l'aigle, pour survivre, devra monter plus haut afin de protéger ses petits. Et Dieu a comparé le prophète à l'aigle dans ses caractéristiques. Il est un voyant qui, dans l'esprit, va au-delà de l'émotion de l'Église. Il va au-delà du rythme de la musique, il va au-delà du battement des mains, il va au-delà de la joie parmi les saints, il va au-delà de tout cela. Dieu l'amène dans une dimension à part, seul. Et là, il lui ouvre les yeux et lui laisse voir à l'horizon les événements à venir. Ensuite, il le ramène parmi les membres du corps pour leur prédire ce qui se dessine au loin. Aussi Dieu prit-il Ézéchiel dans les hauteurs, très haut, et le laissa scruter les cieux des 2600 ans à venir. Pensez-y! Un prophète est aussi un don de connaissance, tout comme un avocat qui étudie les livres. Quand vous l'engagez à défendre votre cause, il ne fait que prendre de ce qu'il connaît et vous le payez pour la connaissance qu'il a pour défendre votre cause devant le juge. Et un don de connaissance dans la Bible est une prophétie, laquelle est allée découvrir ces choses à venir et les rapporte. Mais elles doivent se comparer à la Bible, au livre. Si elles ne se trouvent pas dans le livre, alors elles ne sont pas reçues parce que le juge délibère d'après le livre. Vous voyez cela? Donc cela doit se rapporter à la parole. Ensuite, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu ait ouvert la bouche pour dire quelque chose au prophète à ce moment-là, mais c'est que le prophète entre en contact avec ce que Dieu a déjà dit, car la parole était avant la fondation du monde. Dieu prononça la parole. Elle s'est étalée, s'est étirée très loin dans le temps. Et le prophète s'élève et voit le temps venir. Ce n'est donc qu'un don de connaissance qu'il ramène et met par écrit. Maintenant, Ézéchiel, le prophète, monta et vit le jour dans lequel nous vivons. Oh, quel voyage sur l'échelle de Jacob! Il vit à l'avance ce qui serait et il le rapporta. Et en ces dernières années, les deux derniers millénaires, Ézéchiel vécut 600 ou 800 ans avant la venue du Christ, ils avaient un cœur de pierre. Il en était que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ce cœur-là. Il ne pouvait d'aucune façon entrer dans ce cœur de péché. Et seule l'expiation par du sang d'animal couvrait ce cœur de pierre du Créateur. Mais ce sang animal n'était qu'un substitut, bien sûr, qu'une ombre ou qu'un type du véritable sang à venir. La vie de cette cellule sanguine était une vie animale et ne pouvait coïncider avec l'esprit humain parce que la vie animale n'a pas d'âme en elle-même. Par contre, la vie humaine a une âme en elle. Ils ne pouvaient donc pas se mêler, tout comme l'huile et l'eau ne se mêleront pas. Mais quand le Christ vint et mourut, le sang de Christ, qui fut répandu au calvaire, à l'intérieur de cette cellule de sang, reposait nul autre que la vie de Dieu. Vous voyez cela? Remarquez, ensuite, l'adorateur vient devant Dieu avec ce sang tout approprié, avec le sang du Rédempteur qui nous a rachetés. Vous vous étiez mis la corde au cou par le péché. Adam vous avait envoyé au bureau du prêteur sur gage, mais Christ est venu en tant que Rédempteur, et vous lui appartenez. Dieu vous a donné à Christ comme don d'amour pour son sacrifice. Et vous avez été amené à Christ par le Saint-Esprit, qui vous a courtisé à travers le sang du Seigneur Jésus et vous a présenté à lui comme un don. Et Dieu aime ces dons, et il ne supporterait pas qu'on les détruise. L'autre jour, un ministre demanda à un autre ministre, « Maintenant, pardonnez-moi ceci, c'est qu'il y a juste un peu de ma propre doctrine en cela, mais ici au tabernacle, nous appliquons cela. » Donc l'un demanda à l'autre, « Ne crois-tu pas qu'un homme qui est enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang, et racheté entièrement par Dieu, par le renouvellement de son cœur, par le lavage d'eau, par le sang, à travers la parole, et qui devient enfant de Dieu, ne penses-tu pas que cette personne pourrait pécher et s'éloigner de Dieu au point où elle serait perdue? Et le ministre à qui il parlait, étant un très bon étudiant de la Bible, lui dit, « Je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne. Crois-tu qu'un homme puisse être si bon qu'il ne mentirait pas, ne volerait pas ou ne ferait rien de mauvais, mais qu'il serait si bon que Dieu le recevrait au ciel sans le sang de Christ? Non, bien sûr que non. Vous ne pourriez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus, peu importe combien bon vous êtes. Ce serait alors réussi par votre propre justice. Et nous n'allons pas au ciel sur la base de notre propre justice, peu importe combien on est bon. Il vous est totalement impossible d'entrer au ciel sur la base de votre bonté. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Et vous êtes le don d'amour de Dieu pour Christ. Et si Dieu donne un don à Christ, Christ garde son don. Tout ce qui vient à moi, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et aucun n'est perdu. Je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant, vous pourriez être des plus émotifs, vous pourriez avoir de l'huile dans vos mains, ou parler en langue, ou danser dans l'esprit, ou joindre l'église, ou avoir quelque ingéniosité passagère. Être perdu, certainement c'est vrai, mais si vous êtes un don d'amour de Dieu pour Christ, vous êtes en sécurité. Maintenant, votre vie prouvera ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous essayez par vous-même d'agir avec douceur et humilité, et ainsi de suite, alors vous êtes encore en dehors du royaume. C'est encore là votre propre œuvre. Et c'est là où l'Église, le peuple, la soi-disant Église a si misérablement échoué. Parce que c'est dans leur œuvre personnelle, par ce qu'ils font et par la manière qu'ils vivent, qu'ils sentent mériter la bonté et la grâce de Dieu. Mais cela n'a rien à voir, c'est un don de Dieu. Votre propre conscience qui vous ferait éviter l'enfer essaierait de vous rendre. Vous voudriez éviter l'enfer plutôt en essayant d'être aimable et honnête. Un bon citoyen le fera tout en n'étant pas pour autant un chrétien. J'ai vu bien des hommes qui reniaient même le nom du Seigneur Jésus être de bonnes personnes humainement parlant. Remarquez combien Ésaü était un meilleur homme que Jacob. Mais il n'a pas eu la conception de reconnaître qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Et parce qu'il le méprisa, Dieu ne le reconnut plus. Pourtant, il était beaucoup plus un gentilhomme et un voisin et un homme de labeur que l'était Jacob. Le nom même de Jacob signifie « supplanteur ». Vous savez ce qu'est un supplanteur? C'est un trompeur. Et Ésaü était un gentilhomme sous tous les rapports. Sauf que Jacob fut récompensé par ce droit d'aînesse. Et en dépit de ce que les autres disaient de lui, pardonnez-moi l'expression, mais je dirais qu'ils ont pu l'appeler exalté, fanatique, ou encore du nom qu'ils ont bien voulu lui attribuer. Mais il a eu de la considération pour ce droit d'aînesse. C'était là tout son désir. Peu lui importait l'effort qu'il devait fournir. Il voulait à tout prix ce droit d'aînesse. Maintenant, remarquez que dans l'édification de l'Église, si l'Église ne consiste qu'en... Si le corps de Christ ne doit être contrôlé que par l'intellect, la théologie ou la conception mentale, alors nous sommes entièrement dépendants de la connaissance intellectuelle de l'homme. Pour rendre cela clair, si l'Église ne repose que sur l'intelligence ou sur le pouvoir que peut posséder l'homme de diriger l'Église et de construire de grands lieux de culte et d'installer de somptueux sièges avec un orgue à tuyaux qui vaut des milliers de dollars, et de prêcher son message de façon à amener les gens à l'Église pour l'y joindre, alors plus il y aura de membres dans le livre et plus l'œuvre sera grande dans le ciel. Aussi j'aimerais que vous saisissiez ceci, et ne jamais le laisser vous échapper. Si nous n'avons besoin que de la conception intellectuelle de l'homme, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Si l'Église doit être menée et gouvernée par l'intellect, le système éducationnel et la pensée humaine, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Mais, si ceci doit être mené par le Saint-Esprit, nous n'avons donc pas besoin de l'intellect. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, l'émotion mentale. Si seulement nous, plus l'homme sera astucieux, plus il sera intellectuel, plus il sera scolarisé, plus il sera éloquent, alors meilleure sera l'Église, meilleurs seront les gens. S'il peut présenter son programme en disant, maintenant, nous bâtirons une grande église. Nous l'appellerons d'un certain nom. Nous attirerons l'attention des gens d'un bout à l'autre de la ville, à l'heure où nous sonnerons du carillon sur nos spirales les dimanches matins. L'attraction des pauvres, des perdus dans la boue, quand ils verront que nous portons les plus beaux habits, quand ils verront que nos femmes sont bien coiffées, les pauvres pourront voir comment nos femmes peuvent s'arranger les cheveux et combien elles portent de beaux chapeaux. Et quand nous leur présenterons cela, les démunis, et les affamés viendront alors à nos réunions et désireront être comme le sont nos femmes. Et les hommes remarqueront la qualité de nos vêtements, et comment nous nous habillons et dans quelles automobiles nous roulons, et ce que nous faisons, et comment nous nous impliquons dans les fonctions sociales de la ville, avec les Kiwanis et les autres clubs, ces choses avec lesquelles nous nous associons. Ils verront cela, et les pauvres, et les illettrés viendront sûrement et désireront amener leurs enfants dans cette éducation, afin qu'il puisse devenir membre de cette grande société appelée l'Église. Maintenant, si cela est le programme de Dieu, ils sont corrects. Mais Jésus n'a jamais cité cela ainsi. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Aussi, à travers le programme éducationnel du monde, qui est correct, bien correct, s'ils ne laissent pas cela de côté, mais ils n'attireront pas l'homme à Christ par l'intellectualisme, par la théologie. Le Saint-Esprit seul est la puissance d'attraction de Dieu. Ni le pauvre, ni le riche ne peuvent le recevoir avant d'être devenus pauvres à l'endroit des choses du monde. Christ, étant riche, s'est fait pauvre, afin que nous devenions riches à travers sa pauvreté. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Tout est sens dessus-dessous. Ils essayent d'amener les hommes à l'Église par des discours intellectuels. Ce n'est pas de discours intellectuels qu'il nous faut, mais c'est un baptême du Saint-Esprit, avec puissance et démonstration et manifestation de l'Esprit pour amener les hommes à l'Église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Les écoles et les séminaires sont formidables. Je n'ai rien contre cela, mais ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu choisit des ignorants et des illettrés, des hommes qui ne pouvaient pas bien s'exprimer, des hommes qui ne pouvaient même pas lire leur nom. Comme la Bible a dit, ils étaient ignorants et sans instruction. Mais ils étaient allés à une bien meilleure école, car quand ils guérirent l'homme à la porte appelée Labelle, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà l'école. Et en ceci, étant donné que de nos jours, nous avons ce type d'église intellectuelle en Amérique, tout comme partout dans le monde, quand nous arrivons à ce genre d'école, alors le chrétien, le croyant, le membre d'église, lisant sa Bible, voit qu'il doit essayer d'être humble, il doit essayer d'être comme cela. Mais en faisant ainsi, il n'en fait qu'une imitation charnelle. Laissez ce morceau descendre profondément. Une comparaison charnelle. Il essaye de montrer quelque chose qui n'est pas réellement dans son cœur. Il essaye d'agir différemment de ce qu'il pense, ce qui fait de lui, en termes clairs, un hypocrite. Jésus a dit, « Vous, hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous ne parlez pas selon la vérité de votre cœur, votre cœur pense une chose et vous en dites une autre, cela fait de vous un hypocrite. » Le mot pharisien signifie « acteur ». Ils ont fait un récit mimé de leur religion parce qu'ils avaient un cœur de pierre. Ils sont venus dire « Bon maître, nous voudrions te voir faire un miracle pour prouver que tu es ce que tu dis être. » Il dit « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il dit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il lui sera donné celui-ci. De même que Jonas fut 3 jours et nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Maintenant, pour essayer d'introduire ce nouveau programme, ce programme de réforme que Dieu a avec l'Église, cela lui a été présenté à la Pentecôte, pas le moins du monde intellectuel, mais 120 pécheurs, fabricants de tentes, ménagères, montèrent à la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu, et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Arrêtez de prêcher, n'allez pas plus loin, arrêtez tout, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Non pas jusqu'à ce que vous ayez reçu votre baccalauréat S.A. ou votre doctorat en divinité ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous soyez devenu docteur en philosophie, en psychologie, et vous deviendrez un enseignant intellectuel, mais attendez d'avoir obtenu votre diplôme ou d'avoir reçu un grade universitaire, mais plutôt attendez d'avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Pas de l'école, mais d'en haut. Alors, vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux confins de l'humanité. Sa dernière commission était par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et, conjonction, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans des circonstances similaires, ces miracles devront suivre le croyant plutôt que l'éducation et l'intelligence, parce que l'intelligence ne peut produire cela. Découvrons ensuite qu'il était sur le point de bâtir une église nouvelle. Vous ne pouvez polir l'ancienne église. Vous ne lui donneriez qu'une nouvelle façade, et cela n'arrange rien. Ça prend un cœur nouveau. J'ôterai ce cœur de pierre. Ce n'est pas que vous l'ôterez, mais qu'il l'ôtera. Voyez-vous la différence? C'est un acte de grâce. J'ôterai. Et vous, baptistes, et vous, pentecôtistes, vous qui prêchez la sécurité éternelle, mais qui agissez comme le monde, honte à vous. Pourquoi prêchez-vous? Assurément, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Surveillez maintenant, il a dit qu'il ferait cela. S'il ne vous est pas possible de mettre cela, de parler de cela dans l'ancienne église intellectuelle. Et c'est pourquoi l'Amérique est dans la condition qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle s'est endurcie dans de vieilles idées intellectuelles. C'est pourquoi elle doit poursuivre sa route et qu'elle doit faire signer des papiers à chaque personne et ainsi de suite pour son petit réveil hollywoodien à venir. Et tous y viennent. Et comme de beaux gars et de jolies filles qui ont du sex appeal, ils annonceront leurs petits projets. Et quand c'est terminé, ils reviennent pour découvrir qu'environ 90% de ceux qui avaient accepté Christ comme sauveur ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était donc pas un réveil, c'était une allusion intellectuelle. C'est exact. Ça ne présente que quelque chose comme une folie du peuple américain tapant des mains. Un article télévisé, on l'a converti en une télévision. La chair a été transformée en un moderne plateau de cinéma. Tandis que le prédicateur de l'évangile à l'ancienne mode avait l'habitude de boire de l'eau de pluie et prêcher le soir durant à la lueur d'une lanterne. Cela a bien changé. Nous l'avons bel et bien changé et c'est pourquoi nous avons le groupe intellectuel. Et comment y parviendrez-vous jamais à l'heure où tous les foyers sont à l'écoute de « Qui aime Lucie ?» et toutes ces autres émissions impies qui flottent dans l'air et à la télévision et d'autres choses du genre? Comment allons-nous jamais présenter à travers tout cela cette bonne nouvelle de la façon dont Christ nous a dit de le faire? Si la pensée est encore charnelle, elle débouchera sur le fantastique et le fanatisme, elle contournera la parole de Dieu et aboutira à une coulée d'huile et d'autres choses semblables. Comment allez-vous arrêter cela maintenant? La Bible a dit que c'en serait ainsi. Aussi, vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est exact. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Donc, vers quoi nous dirigeons-nous? Les intellectuels, la vieille dame, ils lui ont fait un lifting. Elle n'en demeure pas moins la même vieille femme. Le vieil homme, ils lui ont fait un lifting, il n'en demeure pas moins le même vieil homme. Au jour de l'an, je tournerai une nouvelle page et je commencerai une vie nouvelle. J'abandonnerai ma pipe pour la reprendre la journée d'après. Voyez, cela vient de vous-même. Ce n'est pas d'un déridage dont l'Église a besoin, c'est d'une naissance. Bon, vous ne pourriez prêcher ceci dans l'ancienne Église. Elle ne le supportera pas. Jésus a parlé dans Luc, à peu près au 5e chapitre, du vin dans l'outre. Il a dit, vous ne pouvez mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles sans qu'elles ne se rompent. Cela m'a déjà fait me questionner, a déjà alarmé mon cœur de jeune garçon quand je pensais, mais comment les bouteilles peuvent-elles se rompre? Pour nos bouteilles, même si elles sont vieilles, ça ne change pas grand-chose, car elles sont faites de verre. Mais au temps de Jésus, est-ce de celle-là qu'il parlait, les bouteilles étaient faites de peau d'animal. Cette peau d'animal avait été tannée, et quand la peau de l'animal était vieille, eh bien, quand elle était nouvelle et jeune, quand elle venait juste d'être tannée, elle était flexible. Mais quand elle devenait vieille, elle desséchait. Beaucoup d'entre vous savent ce qu'est une peau quand elle est toute déshydratée. Elle devient ridée et sèche. Elle rapetisse et de beaucoup. À ce moment-là, si vous y versez du vin nouveau, elle va se rompre parce qu'il n'y a plus assez de vitalité en elle. C'est tout juste comme d'essayer de prêcher le baptême du Saint-Esprit dans l'authentique puissance de la résurrection, ou d'essayer d'amener cela devant les gens. S'il vous arrive d'en verser là-dedans, que va-t-il se passer? Le vin nouveau possède la vitalité et le vin nouveau est dans son processus de fermentation. Oh, j'espère que vous le voyez, la vie nouvelle fermente, le vin nouveau fermente encore. Et s'il est versé dans une autre nouvelle, flexible, où l'huile de l'animal imbibe encore la peau, quand le vin nouveau commencera à faire pression sur les parois de la peau, elle s'étirera. Autrement, quand la Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, la peau nouvelle dira Amen. Elle s'étirera à cela. Et quand le vin nouveau, le baptême du Saint-Esprit dit « Je suis la vie de Dieu qui œuvre en vous », la peau nouvelle dira « Amen » pour s'étirer à cela. Quand le vin nouveau dit « Le Saint-Esprit est suffisant aujourd'hui pour vous guérir », le vin nouveau s'étirera lui-même, le vin étant la parole. Et quand il dira cela, alors les outres neuves diront « Amen » s'étirant à cela. Et pourtant, que fera le vieux corps? Les jours des miracles sont passés et finis. Ensuite, que faisons-nous? Qu'accomplissons-nous? Il a dit, la vieille outre et le vin seront perdus. Et c'est quasiment comme de jeter vos perles devant les pourceaux. Ils se retournent et les foulent aux pieds. Voyez-vous cela? À présent, Christ ne oint pas des ministres pour que cet évangile qu'il prêche lui revienne sans résultat, mais il s'attend à ce que vous receviez la parole. Et quand vous la recevez, soyez prêts. Prenez cette vieille peau de vache dans laquelle vous viviez. Cette vieille condition guindée est échangée-là pour une peau d'agneau qui est flexible à la parole de Dieu. Et vous direz « Amen » à tout ce que dit la Bible, pour autant que cela vienne de la Bible. Car le vin nouveau ne fermente que du vin. Il va seulement confirmer les éléments qui s'y trouvent. Sous l'action de levure, le bulbe de l'alcool déclenche un processus d'éclatement. Comme la levure fait éclater cette petite bulle, elle le rendra tout à fait à point, lui donnera le meilleur goût, lui procurera la meilleure propriété substantielle, le corsera pour qu'il ne puisse pas s'aigrir. Amen. Et quand le levain de l'élément humain qui a été racheté dans le vin nouveau cherche à faire éclater la bulle pour y donner de sa force à l'alcool, ceci rejette de l'Église tous les éléments mondains qui y seraient, préserve l'Église. Le jus de raisin s'écrira en 24 heures. Mais le vin ne s'aigrira jamais, parce que le germe de vie est dans le vin, fermentant et faisant pression et stérilisant, et plus il vieillit, et plus son goût s'améliore. Voilà pour cela. Le vin nouveau ne peut être versé que dans des outres pentecôtistes neuves. Dieu en avait 120 rassemblés dans la chambre haute, après qu'il les eut huilés de sa parole, et les eut adoucis, et les eut renouvelés, et eut sorti hors d'elle toute la vieille orthodoxie, tout ce vieux système. Et Dieu avait 120 outres, attendant dans la chambre haute, quand, avec leur goulot bien droit et un entonnoir par-dessus, et quand le Saint-Esprit s'est mis à couler, ces outres s'animèrent tellement qu'elles se ruèrent à l'extérieur prêchant l'évangile, se précipitant d'un endroit à l'autre. Il en est même un qui sauta sur une souche et qui dit « Ceci est cela !» Revenons tout droit à la parole. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai sur vous mon esprit, mon vin nouveau dans mes outres neuves. » Quel réveil ils étaient en train d'avoir! C'est l'ordre de Dieu. Voici que quelques outres pétillantes de cela s'approchèrent d'un homme affligé. Et quand cet affligé toucha la main d'une de ces outres, son affliction le quitta. Et il bénéficia d'un peu de cela. Et il se mit à sautiller et à louer Dieu. Il courut au temple en se réjouissant et en glorifiant Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Non pas une grande école avec de grades universitaires, mais avec une expérience vivante et agissante du Saint-Esprit. Non par fanatisme, mais par le vrai et authentique Saint-Esprit mis en action. Ma prière est que vous puissiez comprendre cela. Là, remarquez l'ordre de l'Écriture, c'est parfait. Dieu dit, j'ôterai premièrement le vieux cœur de pierre. Par lui, vous ne pouvez rien recevoir. Ensuite, il dit, « Je vous donnerai un esprit nouveau. » Maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est là où la faute a été commise. Une foule de gens, ou plutôt beaucoup de gens, viennent prier à l'autel. Ils s'y agenouillent, et là, en priant, ils commencent à se sentir un peu mieux. Il se peut qu'ils se relèvent, aillent de l'avant, et se réjouissent un bout de temps. mais peu après, vous découvrez qu'ils reviennent graduellement à ce qu'ils étaient auparavant. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien ils ont sauté ou combien ils se sont exclamés, ou si l'huile avait coulé de leurs mains, ou si le sang leur était monté au visage, combien ils parlaient en langue, ou combien ils criaient, ou quoi encore, cela n'avait rien à voir avec ceci. Ce n'était que des émotions humaines. Ils reçurent un esprit nouveau et ils se sont réjouis en cela. Je vais maintenant dire quelque chose et je veux que cela descende profondément. Puisse Dieu nous aider. Voici le côté émotionnel de la soi-disant Église du Saint-Esprit aujourd'hui. Ils ont beaucoup de ce fanatisme artificiel et ils se sont enfermés en cela parce qu'ils ne tiennent aucun compte de la parole. Ils s'accordent en ceci. Oh, nous avons une grande réunion. Alléluia! 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 Aussi, quand vous avez ces manières, sans porter le fruit de l'Esprit, c'est que vous êtes dans l'Esprit nouveau. Vous n'aviez pas l'habitude de faire cela, c'est vrai. Dieu dut vous donner un esprit nouveau toutefois, parce qu'avec l'esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous entendre avec vous-même. Aussi, comment alliez-vous vous entendre avec Dieu? Donc Dieu se devait de vous donner un cœur nouveau, non pas un tout rapiécé, mais un cœur nouveau. C'est cet intellect avec lequel vous pensez une manière nouvelle de penser. Donc lorsqu'il vous donna une manière nouvelle de penser, oui, c'est exact, la Bible semble être raisonnable, je doutais de cela auparavant, mais là j'y crois, c'est là où se produit votre grand réveil, voyez, ils disent, assurément, je ne veux pas aller en enfer, je veux accepter Christ, c'est très bien, c'est une bonne chose, ce n'est que votre premier pas, après cela il ajoute, je vous donnerai un esprit nouveau, qu'est-ce que ceci, un désir nouveau, je veux agir correctement. Je sais que je suis maintenant un chrétien, je vais en fumer une autre et puis je jetterai mon paquet, voyez-vous. Je vais juste rester à la maison ce soir, vous savez, je vais juste, tous ces petits, juste, c'est exactement. Ève s'arrêta juste un moment, c'est tout ce qu'elle avait à faire. Ça c'est l'esprit nouveau. Remarquez ensuite l'ordre de l'écriture. Après vous avoir donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il dit ensuite, je mettrai mon esprit. Alors quoi? C'est ce que dit l'Écriture ici. C'est l'ordre pneumatique et numérique des Écritures. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Ensuite, le Saint-Esprit de Dieu. Le cœur nouveau de Dieu qu'il a placé en vous est établi juste au centre de vous-même. C'est votre impulsion d'où proviennent vos émotions, et l'esprit nouveau est au centre même de votre cœur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est au centre même de votre esprit nouveau, et de là il contrôle votre émotion. C'est tout comme le ressort principal d'une montre de renom qui se remonte toute seule. Vous n'avez pas à la remonter chaque jour, Dieu l'a remontée une fois pour toutes. Et cela se tient juste au milieu de votre vie nouvelle. Et comme le ressort principal se détend et écoule les heures, il contrôle chaque petite pièce de la montre en donnant une heure précise. Et quand le Saint-Esprit, par le nouveau grade, par la nouvelle église, par la nouvelle pensée, par la nouvelle émotion, par la nouvelle huile, par la nouvelle danse, par la nouvelle lèvre, par la nouvelle langue, par le nouveau ceci, par le nouveau chapeau, mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, après cela, vous n'avez pas à agir humblement, vous n'avez pas à agir comme un chrétien, il contrôle tout ce qui est en vous, cela vous rend décent. Fait agir l'Église dans l'ordre, fait opérer les dons avec perfection. Et si vous devez être enlevé de la position que vous pensez devoir détenir pour être placé ailleurs, il vous contrôle. Pas devenir tout nerveux. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Non, monsieur, cela démontre que le ressort principal n'y est pas. Quand vous explosez face à tout petits événements qui arrivent, cela empoisonne cette disposition. Et s'il arrive que le pasteur touche un point qui se trouve dans la parole, vous crachez là-dessus en disant, « Eh bien, je ne crois pas en cela. » Faites attention, une vieille peau de vache, voyez-vous. Prenez garde, car le nouveau ressort principal n'a pas encore été posé correctement à l'intérieur. Mais il contrôle, il vous fait croire, il vous fait agir d'une façon tellement exemplaire que cela vous rend salé, cela fait que le monde entier aura soif d'être comme vous. C'est le Saint-Esprit établi au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. C'est ensuite que le joug sous lequel vous êtes Ah, que ça ne me tente pas d'aller à l'église ce soir. Eh, ce prédicateur, s'il n'était pas remonté pour si longtemps, je l'écouterais bien quelques minutes, même. Je vais te dire, la dernière fois que je suis allé jouer aux cartes, Suzy m'a dit, « Tu veux me dire que tu vas t'abaisser au point de laisser allonger tes cheveux? Tu veux me dire que tu ne porteras plus jamais de shorts, Lydia? » Eh bien, voyez-vous, la chose est que, si vous n'avez que l'esprit nouveau, il finira par vous éliminer, c'est juste. Mais quand vous recevez son esprit, il fait battre chaque émotion en accord avec la parole de Dieu. Il battra à l'unisson de la parole de Dieu. Vous répondrez, eh bien là, Suzy, juste un petit instant. La Bible a dit que ces choses lui sont en abomination, et l'amour de Dieu est venu dans mon cœur, et je l'aime trop pour faire cela. Tu vois, je l'aime. Jean, tu veux me dire que tu t'es associé à ce tas de fanatiques et que tu ne fumeras pas le cigare pour célébrer l'avenue de mon nouveau-né? Mais vois-tu, Jean, le Saint-Esprit dans mon cœur me dit que nous devrions nous abstenir des souillures du monde. Voyez, voyez? Non pas « Jean, alléluia! Jean, gloire à Dieu! Jean, loué soit le Seigneur! Vois cette huile dans ma main, gloire à Dieu! Jean, je peux parler en langue, alléluia !» Non, non, ce n'est pas de cette manière que se comporte le Saint-Esprit. Non, non, elle laisse tomber la simple décence. Tout comme Paul s'est tenu devant Agrippa et lui a présenté la parole disant « Ô Agrippa !» Et Agrippa lui répondit « Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il dit « Agrippa, est-ce étrange pour toi, étant juif, que la Bible ait déjà parlé de Jéhovah ? Est-ce une chose étrange pour toi que Dieu ressuscite les morts ?» Non pas « Agrippa, alléluia, gloire à Dieu Agrippa, alléluia !» Non, ça c'est de la folie, mais Agrippa, l'Écriture dit. Vous voyez vers quoi le ressort principal vous ramène ? Aux Écritures. Vous n'avez pas à vous en inquiéter, cela se trouvera dans le programme de Dieu. Il vous ramène. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, a dit Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous. C'est lui qui parlera. Agrippa, toi qui es juif et qui connais toutes les lois de l'Ancien Testament, te semblerait-il incroyable, Agrippa, que Dieu ressuscite les morts? Agrippa dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, je ne suis point fou, Agrippa, mais je suis juste en train de te rappeler ce que Dieu a fait dans sa parole, voyez? Oh, t'es devenu un exalté, Paul. Non, Agrippa, je te rapporte seulement ce que Dieu a dit ici dans l'Écriture, qu'il ressusciterait son Fils, Christ Jésus, au dernier jour. Et maintenant, Agrippa, te serait-ce une chose étrange que Jéhovah Dieu qui ouvrit la mer Rouge, qui suscita des miracles en ce jour-là, qu'il accomplisse des miracles en nos jours? Il dit, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul dit, je voudrais que tu sois comme moi, à l'exception des liens que je porte ici, aux mains et aux pieds. C'est quand le ressort du milieu de l'esprit nouveau, dans le cœur nouveau, fait en sorte que chaque émotion soit sous contrôle. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y voici. Ça se passe ainsi quand vous retirez votre tête du joug du monde. Vous dites, j'irai m'y joindre, mais je te dis, et vous dites que vous vous rangez sous le joug avec Christ, vous dites avoir pris son joug, et pour ensuite dire, oh, ceci m'écorche les épaules, ça dérange mon prestige social. Les gens avec qui je m'associais auparavant se détournent de moi et disent, ça y est, une vraie exaltée. Voyez, Jean ne vient plus à la salle de billard. Et c'est humiliant, frère Branham. Non, vous n'avez pas reçu la bonne chose. Quand le ressort principal est au milieu, faisant rouler normalement le mouvement, alors le joug devient doux. Oh, vous souciez peu de ce que l'on dit de vous. Oh, je rétrograde, parce que je ne peux tout simplement plus supporter qu'il m'appelle ceci, cela, et quoi encore. Eh bien, c'est que le ressort principal n'a jamais été posé au milieu. Son esprit n'a pas été placé au milieu de votre esprit, voyez. Vous aviez une fausse supposition de personne. Vous avez pleuré, c'était une fausse conception, voyez. Vous n'avez accepté que le côté émotionnel sans jamais avoir atteint le vrai côté. Vous avez pourtant bien entendu battre le tic-tac de la montre, et vous avez aussi marché à son rythme. Mais si c'est le ressort principal qui bat, si c'est lui qui contrôle chaque émotion, alors le joug devient doux. Ils peuvent dire, savez-vous quoi? Elle va là-bas. Elle avait pourtant l'air d'une poupée. Mais regardez-moi là maintenant. Ses cheveux lui pendent dans le dos, elle ne se maquille plus. Sa tenue est si modeste. Je ne voudrais pas vous dire d'avoir l'air d'une antiquité, là, mais ce que je veux dire, c'est d'être vêtue avec décence. Elle était des plus belles. Elle s'étendait là dans la cour, en short, prenant un bain de soleil, mais on ne la voit plus. Quelque chose est arrivé. Le ressort principal s'est logé là où il devait être, c'est exact. Oh, il avait l'habitude d'arrêter. C'était un mordu du billard. Il s'y connaissait aux cartes, mais il ne joue plus. Leur ressort principal. Oh, c'est un exalté. Mais le joug est doux. Savez-vous ce que vous faites avec cela? Vous aimez tout bonnement le porter. C'est comme pour Samson, quand il prit la porte de cuivre de Gaza, il mit cette grosse porte de cuivre sur ses épaules et il partit avec. C'est exact. Et quand le joug est uni à la joie, à la paix et à la douceur de Christ dans votre cœur, alors vous portez tous les fardeaux que le monde jette sur vous et les amenez à une certaine colline appelée Calvaire. Et là, vous vous agenouillez et priez pour celui qui vous persécute. Vous ne feriez plus descendre le feu du ciel et démolir l'Église, mais vous leur apportez la paix. Dieu soit leur miséricordieux. La Bible a dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des endroits arides et puis revient. Et quand le diable, qui autrefois vous faisait marcher, quand il revient et découvre que tout a été défriché, c'est que Dieu a envoyé son gros bulldozer. Savez-vous ce qu'il a alors fait? Il creusa la terre, il renversa les choses, il donna une nouvelle perspective à l'endroit. Et quand le diable revient à son vieux fouillis, où traînaient habituellement des bouteilles de bière, où s'étalaient des cartes sur la table, des cigarettes parmi cela, aussi bien que les magazines, Histoire d'amour et vérité, quand il revient et découvre la maison toute balayée, décorée. Alléluia! Dieu a envoyé son bulldozer pour tout déblayer. Ici est son bulldozer, frère, comparez avec ceci, balayant tout à l'extérieur, passant tout au bulldozer, et il se mit à planter des jardins. Et il découvrit là une grande maison toute neuve, bâtie sur le lieu. Amen! Le Saint-Esprit l'a emménagé, et le Saint-Esprit a pris la place des canettes de bière. La Bible a pris la place de la littérature contemporaine. L'Esprit de Dieu a pris la place de la théologie moderne. Les réunions de prière reviennent à la maison quand le Saint-Esprit entre. Tout le reste s'en est allé. Écoutez, mes amis, au commencement, la Bible dit, regardez, je voudrais aborder ici le fait que tous nos credos intellectuels et artificiels. Je veux vous montrer quelque chose en terminant. Au commencement, quand ce monde se tenait là, vide, et n'était rien qu'une grosse bulle d'eau causée par la fonte des grands glaciers due à la chaleur du soleil, la Terre avait vacillé comme cela et voyagé dans l'espace à des millions sous zéro. Forma l'humidité. La rencontre de la chaleur et du froid crée l'humidité. Cela peut se voir, entre autres, sur les fenêtres de la maison, de l'intérieur et de l'extérieur. Et quand la Terre sortit en tournoyant de son orbite première, le Soleil, dit-on, étant la mère de toutes, et ces genres de missiles qui s'envolèrent, quand elle sortit de là, elle congela en une énorme et solide masse. Ensuite, elle commença à avancer, et Dieu conçut en... Écoutez attentivement maintenant. Comme il commença à la rapprocher du Soleil, elle commença à décongeler. Ensuite, Dieu commissionna le Saint-Esprit. La première personne à s'introduire est Dieu. Dieu, au commencement, était Dieu dans la Genèse. Ensuite s'introduit le Saint-Esprit, ou le Logos, lequel sortit de Dieu. C'était cependant tout Dieu s'incorporant dans une personne. Et la Bible dit, il commença à couver la surface de la terre. Couver signifie faire l'amour. Roucouler comme une colombe, il commença à se mouvoir à la surface de la terre. Que s'est-il produit alors? Des êtres humains, concitoyens, des hommes et des femmes, comme je le suis, des êtres humains qui ont une âme immortelle. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Pensez-y à l'instant, juste une minute. L'autre soir, vous l'avez vu sur le journal, un de mes cousins, un pharmacien, ou plutôt un docteur, pratiquant à Louisville. Et en revenant à la maison, il s'installa pour manger. Il demanda à sa femme de lui apporter une orange, se crispa et mourut d'une crise cardiaque. Raymond Branham et son frère Georgie, mon cousin Germain comme l'autre, les enfants du frère de mon père, se rendit voir son frère, et en revenant, 5 minutes après l'avoir laissé, ils remarquèrent une voiture qui zigzaguait en ralentissant, et ils virent un homme s'effondrer sur le siège. Il mourait d'une crise cardiaque. Frère Doc et moi sommes entrés au salon mortuaire l'autre soir. Je jetai un coup d'œil dans les pièces, aux cartes et aux fleurs suspendues sur les murs et tout autour. Et je baissai les yeux tandis que des souvenirs me revenaient à l'esprit de quand je n'étais qu'un petit garçon jouant avec ceci. Et j'ai pensé, tout le monde était là, le salon était rempli, et vous n'auriez pas pu trouver une place où garer votre auto à des rues à la ronde, à cause de tous ces amis et connaissances qui étaient venus. Et j'entrai là, et puis ma cousine Agnès se mit à pleurer sur mon épaule. Comme je la retirais quelque peu de moi pour la consoler, Dorothy, la plus jeune, est arrivée, elle m'a serré dans ses bras en pleurant, en disant, « Billy, qu'allons-nous faire ?» Et comme je disais, « Où est tante Lizzie ?» Elle dit, « Elle se trouve en très mauvais état, suite à une crise cardiaque, elle pourrait mourir à tout moment, c'est leur mère. » Aussi j'ai pensé, « Qu'arrive-t-il donc à cette grande génération de Branham ?» J'ai pensé la même chose quand j'ai vu mon père, quand je le tenais sur moi et que ses cheveux ondulés glissèrent sur mon bras, et je l'ai vu regarder vers moi tout en me souriant pendant que je priais pour lui, et il s'en alla rencontrer Dieu. J'avais pensé la même chose quelques jours auparavant, quand Doc, mon frère, qui est ici, ramassa son frère qui s'était fait trancher la gorge dans un accident occasionné par un type ivre, qui avait renversé un poteau, démoli l'auto et causé sa mort. Il mourut dans les bras de mon frère. Et voyant mon père descendre la rue avec Madame Kelly, là-bas dans la maison de Monsieur Kelly qui pleurait avec son chapeau noir à la main, quelques jours plus tard, je le tenais dans mes bras, il était prêt de mourir. J'étais là et je vis la vieille chaise berçante se mettre à bercer d'avant en arrière sans qu'il n'y ait personne dessus, comme ma belle-sœur Ruth s'en allait à la rencontre de Dieu. Je lui avais dit, « Veux-tu que je mette l'image de Jésus sur le mur ?» Elle avait dit, « Non, Billy, il est toujours devant moi. » Ensuite, quand je me suis tenu au chevet de mon épouse Hope, la mère de mon garçon Billy et de ma petite fille Sharon, et qu'elle prit mes mains dans les siennes, tandis que ses yeux noirs me regardaient, elle me parlait de l'endroit d'où elle revenait et où elle voulait retourner. Elle m'avait dit, « Ne manque pas de prêcher cet évangile, Billy. Tu ne saurais comprendre quelle joie c'est que de partir ainsi. » Quelques heures après cela, posant mes mains sur la tête de mon petit bébé qui se mourait, je l'ai mise dans les bras de sa mère. J'ai dit, « Oh Dieu, je sais que tu fais remonter la sève des arbres au printemps pour que les bourgeons et les fruits reviennent, et tu la caches sous le sol durant l'hiver. Tu te dois d'être Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce type extraordinaire qui naquit en Galilée il y a 2000 ans, qui marcha sur la mer conformément aux Écritures, pour moi, il était le Messie promis. Qu'on dise n'importe quoi, moi, je le crois. Et je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me montre des choses à venir. Un être surnaturel apparaît et me montre des choses avant qu'elles n'arrivent. Et il me prévient de ces choses. Mais je me trouvais face à cette chose sans en avoir été averti. Ma femme était là, morte. Papa de l'autre côté. Et là, Dieu, vas-tu m'arracher mon enfant des bras? Vas-tu faire cela, me prendre mon enfant? Et un sombre rideau descendit devant moi. Je sus qu'il l'avait fait. Si le ressort principal n'avait pas été là, alors, Satan va me dire, bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Jusqu'à ton cher petit amour, il va te l'arracher des mains, comme il est cruel. Ça, c'était l'esprit nouveau, tout ce qui vient de l'intellect. Je me tenais là, tout tremblant, je me disais, où vais-je aller? À ta place, j'irai me saouler. T'as jamais bu de ta vie, mais je le ferai de toute façon. Il t'a dit de ne pas le faire, mais je le ferai quand même. Je lui montrerai qui est le patron. J'ai dit, Satan, je ne peux pas, il est le patron. C'était depuis le ressort principal. Je suis si heureux qu'il y ait un ressort principal. Alors que je marchais sur le chemin et que Monsieur Hissler n'avait plus de famille, j'étais sorti marcher. J'étais incapable d'aller à la tombe. Je restais simplement à marcher sur le chemin. L'eau de l'inondation venait juste de se retirer depuis peu de temps. Et Monsieur Hissler, remontant la route, sortit de son auto et me dit, « Billy, j'aimerais te poser une question. Je t'ai vu pleurer ici dans cette tente. Je t'ai entendu prêcher. Et combien tu étais enthousiasmé du message que tu portais et que tu amenais aux gens. Que veut-il dire pour toi maintenant? L'aimes-tu toujours? Dirais-tu encore que tu veux le servir? » J'ai répondu, « Monsieur Hissler, s'il m'envoyait en enfer, je continuerais à l'aimer. Parce qu'il y a quelque chose qui a été placé ici, voyez, qui n'est plus moi, mais c'est lui. » J'étais satisfait en ceci, que, reposant dans leurs différentes tombes, d'ici à Walnut Ridge, s'étalait ma famille, mon papa, mon frère, ma femme, mon bébé, et j'étais retourné dans la poussière de la terre d'où ils étaient venus. Mais j'ai réalisé qu'ils devaient avoir été ici quand le monde fut fait, parce qu'ils ont été pris de la terre. Ils étaient ici quand la terre fut faite. Nos corps étaient ici avant que la terre soit faite, car nous sommes de la terre. Nous sommes tout simplement faits de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique, d'atomes qui nous soutent ensemble. Et d'une façon ou d'une autre, par une pensée maîtresse, nous avons été faits ce que nous sommes. Non pas un amas de potasse et de calcium et de pétrole mis ensemble, mais quelque chose s'introduisit à l'intérieur et commença à créer, et je fus fait ainsi. Au commencement, le Saint-Esprit commença à couver à la surface d'un triste désert. Excusez mes émotions, mais alors qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait jamais rien eu, le Saint-Esprit fut envoyé de Dieu. Pas un intellectuel, mais le Saint-Esprit fut envoyé de la présence de Dieu pour se mouvoir à la surface de la terre. Et comme il se faisait, il étendit ses grandes ailes autour de la terre et se mit à faire l'amour ou à couver, à roucouler au-dessus de la surface de la terre. Je peux m'imaginer le calcium et le potasse venir ensemble et un petit lys de Pâques apparut. Le Saint-Esprit faisait sortir tout cela de la terre et il continua à couver et comme il roucoulait et couvait, je commençais à voir des arbres pousser. Des oiseaux se mirent à voler de la terre, des animaux se mirent à marcher. Il continua ainsi à roucouler, et un homme apparut, appelé Adam. Et Adam semblait seul. Aussi, il lui fit un dérivé, en prenant une côte de son côté, et lui fit sa bien-aimée Ève. Et il aimait Adam, et il aimait Ève. Je peux imaginer Ève appuyant sa tête sur l'épaule d'Adam. Elle avait tout ce qu'une femme peut désirer, plus encore. Et tout en s'appuyant sur la forte épaule de son bien-aimé Adam, il marchait à travers le jardin. Le lion a peut-être rugi à ce moment-là, mais elle ne pouvait être effrayée car la peur n'existait pas. Aussi il dit, « Chérie, c'est le lion. C'est ainsi que je l'appellerai. Léo le lion, viens ici. Chita le tigre, approche ici et couche-toi. » Et il les suivait comme des petits chats. Les vents commencèrent à souffler, et les cheveux de la petite Ève se soulevèrent au vent. Elle dit, le vent se lève. Silence, tais-toi. Et les vents lui obéirent. Il était le Fils de Dieu. Elle était sa chérie. Et puis je peux l'entendre dire, chérie, tu vois le soleil se coucher? C'est l'heure de parler au Père. Aussi ils montèrent à la cathédrale, au grand arbre. Et comme ils étaient agenouillés, soudainement, une céleste et vive lumière descendit. C'était le Logos. Le Saint-Esprit qui les avait fait sortir de la terre descendit, Dieu le Père, et il dit, « Les enfants, avez-vous apprécié votre journée ?»« Oui, Père, je suis descendu vous dire bonne nuit et pour vous donner du repos cette nuit. » Il les embrassa sur la joue et les coucha. Rien ne pouvait nuire. Il était dans le jardin avec eux. Il fit coucher le lion, il fit coucher le tigre et tous les autres. Et le Père était satisfait. Ensuite, le péché, par la connaissance, l'intellect, j'espère que vous le saisissez, par l'intellect, le péché entra dans le monde, en essayant d'y trouver une plus grande lumière, en s'emparant d'une chose qui n'était pas dans la parole de Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. mais ai voulu quelque chose de nouveau. Oh, pouvez-vous voir en moi que je n'essaye pas de tromper quelqu'un? Je suis seulement en train d'étaler à pleine vue le « ainsi dit le Seigneur ». La parole est rien que cela. Pas de fables, pas de grandes églises et d'intellectuels, mais d'écouter celui qui nous a fait sortir de la terre. Le péché entra. Et maintenant, mes amis, si le Saint-Esprit a été l'unique instrument que Dieu a utilisé pour nous faire sortir de la terre, et nous sommes venus de la terre, et nous étions ici avant qu'il y ait une terre, rappelez-vous, c'est ici un encouragement pour ceux pour qui l'on va prier. Si le Saint-Esprit en couvent a fait l'être physique, qui est donc l'architecte de notre corps? Oh Dieu, puissent les gens voir cela! Le Saint-Esprit vous a donné votre appendice, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre cœur, et a mis un esprit nouveau en vous, et il est ensuite venu vivre en vous. N'acceptez pas à aucun prix les choses intellectuelles, les théologies qui sont contraires à la Bible, mais restez seulement sur le « ainsi dit le Seigneur ». Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le Saint-Esprit a couvé son propre corps pour y demeurer Jésus-Christ. Quand il couvrit de son ombre Marie et qu'il créa ou féconda une cellule sanguine dans son sein, elle mit au monde le Fils, Christ Jésus, où Dieu tabernacla sur terre pendant 33 ans et demi. Il a été fait victime expiatoire pour nos péchés, pour nous racheter et pour nous amener la réconciliation entre un homme perdu et un Dieu saint, pour les embrasser et les réconcilier. Ceci dans la fraîcheur du soir, quand le soleil se couche sur nos labeurs, quand le voyage de la vie est accompli et que la course est terminée. Je veux qu'il m'embrasse en m'endormant, comme il le fit pour Étienne. Quand il fut assailli de part et d'autre, il dit, « Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. » Voilà. Maintenant, comment cela peut-il se faire? Et si Dieu a fait de nous ce que nous sommes, sans avoir eu la moindre idée de ce qui se passait? Si Dieu a fait de moi un homme et a établi que j'atteigne un certain âge avant de mourir? À l'âge d'environ 23 ans, j'étais fort et en bonne santé. Et si Satan ne s'en était pas mêlé? Il a essayé de me rendre infirme en me tirant dessus, et beaucoup de choses. Mais Dieu vit. Et vous, quand vous étiez jeunes, et quand vous étiez jolis, vous les femmes âgées, et vous les hommes qui étiez jeunes, et forts et en santé, combien vous vous réjouissiez d'être un homme avec votre petite compagne. Si Dieu a fait cela, sans que vous eussiez un mot à dire en cela, vous n'avez jamais dit, fais-moi ainsi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Puisqu'il vous a fait ainsi, sans que vous eussiez un mot à dire, combien plus peut-il, quand il vous couvre, vous donner un choix? Et vous êtes sur la base du libre arbitre. Vous pouvez le rejeter ou l'accepter. Le rejeter signifie être perdu pour retourner en potasse, en calcium, en pétrole. Mais l'accepter signifie avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau et son esprit, une partie du logos en vous, contrôlant vos sentiments. Et quand il vous roucoule sa parole, vous lui répondez en roucoulant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, Seigneur. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Amen, Seigneur. Combien plus vous ressuscitera-t-il quand bien même le vent aurait éparpillé votre corps d'est en ouest? Combien plus ce Saint-Esprit peut-il, après l'annihilation totale causée par cette bombe atomique qui tombera sur cette terre un de ces jours et fera éclater le sol, et... mais le calcium et le potasse resteront ici, et ensuite le Saint-Esprit couvra à nouveau. Les os se rapprocheront les uns des autres, les membres se rapprocheront les uns des autres, et il y aura une église du Dieu vivant qui se tiendra sur ses pieds dans le dernier jour. Mes amis, ce n'est que par la fécondation ou le roucoulement du Saint-Esprit que vous le ferez jamais. Que Dieu a jamais promis de vous ressusciter comme vous écoutez à sa voix ce murmure doux et léger qui parle dans les profondeurs de votre âme. Et mes amis, en terminant, juste un moment de plus, et je voudrais que vous y réfléchissiez profondément et sincèrement, un jour, nous devrons nous en aller. Et pourquoi, oh, dites-le-moi, je vous prie, pourquoi essayeriez-vous de prendre une contrefaçon, une théologie d'Église, une approche intellectuelle, une émotion, toute chose contraire, quand le ciel pentecôtiste est plein de la bénédiction authentique du réel Esprit de Dieu qui vous contrôle et fait de vous un véritable chrétien? Vous n'avez pas à personnifier quoi que ce soit, soyez juste un enfant du Dieu vivant. Pourquoi, dites-moi, pourquoi essayeriez-vous d'entrer ou d'accepter quelque chose de différent alors que Dieu est prêt, qu'il attend et qu'il vous a amené jusqu'ici et il essaye de vous féconder par le Saint-Esprit? Allez-vous simplement accepter une déclaration de credo et ainsi de suite pour tenter de vous faire parvenir jusqu'au ciel? Ou une quelconque émotion mentale et imaginaire qui ne trouve même pas sa place dans la Bible? Le recevrez-vous? Ô peuple de Dieu, allez sur vos genoux et à votre Dieu. Ma prière est que Dieu vous fasse miséricorde tandis que nous prions. Et avec nos têtes inclinées, en ce moment solennel, quand peut-être à ce moment précis puisse demeurer sur vous, sur cette assemblée, sur beaucoup ici, réfléchissez profondément, que cela ne soit pas une pensée superficielle. Rendez-vous l'amour au Saint-Esprit. Et cet esprit qui est dans votre vie fait-il battre vos émotions exactement avec la Bible? Êtes-vous longanime, doux, bon? Comme vous priez, écoutez bien. La matière n'est pas testée par sa quantité, par sa grosseur, par la grandeur d'une église. Ce dont je parle ici, ce n'est pas testé par sa quantité, mais par sa qualité. On teste le métal à sa rigidité. Et l'église n'est pas testée par sa grandeur ou par son nombre d'adhérents. Elle est testée par sa force, par la Bible, par comment elle peut dire Amen à chaque promesse donnée par Dieu, par comment s'épanouit votre vie, avec bonté, douceur, gentillesse, patience. Que se passe-t-il quand quelqu'un vous écorche? Y a-t-il une petite roue là, entrant directement en action pour vous garder sous contrôle? Son amour traverse-t-il directement votre cœur? Êtes-vous simplement en train de faire semblant? Oh, pensez-y maintenant, et tandis que vous y pensez sérieusement et que le Saint-Esprit s'occupe de vous, se mouvant au-dessus de vous en disant, « Mon enfant, entends ma voix. » Maintenant, dans le nom de Christ, avec vos têtes inclinées devant Dieu, pas devant moi, lèveriez-vous la main? Dites, « Dieu, mets ton esprit en moi, vois ma main. » Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup, beaucoup de mains. Et Père, Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus, ton Fils, l'éternel Saint-Esprit qui courtise, roucoule, je te demande ceci aujourd'hui, que tu prennes la place qui te revient dans le cœur de chaque personne qui a levé sa main. Ils ont voulu te signaler par ceci qu'ils ont besoin de toi. Oh, combien ils ont besoin de toi! Et s'ils reconnaissent ceci maintenant, qu'en sera-t-il de l'heure où le cœur refusera de battre? Qu'en sera-t-il de l'heure où ils ressentiront les vapeurs froides de la mort? Combien plus le reconnaîtront-ils alors? Et que sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Et Père, nous en avons assez des imitations de la vie chrétienne. Crée en nous, Seigneur, dès aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et place ton esprit, selon la parole de ton prophète, dans le centre de notre esprit nouveau. Et contrôle-nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience et la foi. Et puissent les fruits de l'esprit être trouvés en nous, comme nous te cédons humblement notre âme, la partie la plus interne de nous-mêmes. La vie qui unit ensemble tout ce potasse et ce calcium et ce pétrole terrestre, elle les tient ainsi. Quand elle part, nous retournons dans la poussière. Et nous cédons notre esprit, nous te le cédons. Et crée en nous cette juste sorte d'esprit. Et puisse le Saint-Esprit, ton esprit, nous contrôler et nous conduire et nous guider dans notre voyage. Bénis ces chères personnes. Guéris aussi les malades qui sont parmi nous, Seigneur. Et puissions-nous dire, comme nous quitterons ce lieu ce matin, il faisait bon d'y avoir été, car le Saint-Esprit a fait une œuvre en nous qui changera nos émotions, qui fera de nous des personnes différentes de ce que nous étions quand nous sommes entrés. renouvelle l'espoir des saints. Fortifie-les, Seigneur, contre le jour qui s'en vient. Oh, les blés sont mûrs. Jésus viendra bientôt pour la moisson. Et je demande cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'il serait bon de rester en silence un moment, pendant quel jour j'ai besoin de toi. Oh, combien j'ai besoin de toi. Je me demande ce que Georgie était en train de penser l'autre soir, après avoir quitté son frère qui venait de mourir. Comme il descendait la rue et qu'il sentit son pouls diminuer de battre, ne voyant plus que du noir devant lui, comme il s'effondrait sur le siège avant, laissant sa femme et ses enfants. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Ô bénis-moi à l'instant, mon Sauveur, je viens à toi. Chantons-le ensemble. J'ai besoin de toi à chaque heure, ô. Quand tu es prêt, j'ai besoin de toi, ô, j'ai besoin de toi, à chaque heure, j'ai. Levons nos mains vers lui. Ô, bénis-moi, mon Sauveur, je viens à toi. Ô, grand Jéhovah, agis maintenant, scelle chacun de ton esprit, mets dans nos cœurs ce quelque chose qui a manqué si longtemps. Donne-nous cette victoire, Seigneur, cette victoire triomphante dont nous avons tant besoin. Le feras-tu, Père? Nous comptons sur toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je me demande s'il y en a ici pour qui l'on doit prier. Une dame m'a téléphoné de New Albany. Quelqu'un, y a-t-il une dame de New Albany qui m'a téléphoné? C'est très bien, très bien. Elle est ici pour que l'on prie pour elle. Continuez avec le chant que vous jouiez, sœur. Et ensuite, par le côté droit ici pour la ligne de prière. Soyez respectueux quelques instants. Faites la file du côté droit ici, afin que nous prions pour ceux qui sont dans le besoin. Du côté du Jourdain, dans les doux champs de l'Éden, où un arbre de vie est florissant, le repos m'y attend. Jésus brisa toutes les chaînes quand il vous libéra. Allez chercher une chaise pour le faire au cas où il voudrait s'asseoir. Préféreriez-vous vous asseoir, frère? Je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, car il m'a délivré. Qu'est-il arrivé? Ceux-ci pour qui l'on va prier, qui se tiennent dans la ligne en ce moment, sont venus solennellement sur la base de leur foi en croyant. Ils sont venus dire que ce vin avait coulé dans des outres neuves, qu'ils sont prêts à dire « Amen ». Oh, ainsi dit le Seigneur. La Bible a dit, laquelle est le ainsi dit le Seigneur? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il vous joigne d'huile et prie pour vous. La prière de la foi sauvera le malade. Et il est aussi écrit dans l'Écriture, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Et nous sommes enseignés à le faire, ainsi que contraints par le Saint-Esprit à suivre l'ordonnance ministérielle de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. Ceci ne veut pas dire que l'individu qui prie doit être un saint ou un ange, mais ceci veut dire que la personne qui s'approche doit avoir en elle-même la foi, que le Saint-Esprit et son roucoulement par sa parole a déposé un petit quelque chose à l'intérieur qui lui fait croire qu'il la couvrira jusqu'à sa guérison. Comme pour Abraham, quand Dieu lui apparut dans le nom de El Shaddai, la poitrine, comme le sein d'une femme, et qu'il dit « Abraham, tu es âgé de 100 ans, mais je suis celui qui a le sein. Appuie-toi simplement sur moi, comme un bébé, et nourris-toi, et je te confirmerai ma parole. » Et Abraham, étant âgé de 100 ans, s'appuya sur la poitrine de Dieu. Lui et Sarah étant un, bien sûr, commencèrent à étudier, à sonder et à accepter la parole de Dieu. Et qu'arriva-t-il? Dieu le transforma en un jeune homme, lui et sa femme, et ils eurent un enfant, Isaac. Et par Isaac vint le Christ, par qui le monde est béni. Il fut fait père des nations. Parce que Abraham appela ces choses, écoutez bien, qui n'étaient pas. Le cas de la guérison divine en Abraham n'était pas. Quand il accepta la promesse, cela prit 25 ans avant que cela s'accomplisse. 25 ans. Quand Abraham avait 75 ans, il lui fut donné une promesse. À l'âge de 100 ans, l'enfant naissait. Mais tout au long de ces 25 années, il rendit continuellement au Saint-Esprit l'amour qu'il lui redevait. celui qu'il avait fécondé de la terre. Et il appelait la parole du Saint-Esprit vraie, appelant les choses qui étaient comme n'étant pas, parce qu'elles étaient contraires à la parole du Saint-Esprit. Il redevint un jeune homme et engendra l'enfant. C'est comme cela que nous venons. Nous sommes de la semence d'Abraham, et nous appelons les choses, les symptômes, nos afflictions, nos maladies, comme s'ils n'existaient pas, parce que nous obéissons à ce que le Saint-Esprit, à travers le prophète, le voyant, a déclaré être la vérité. Et à travers les âges, tous ceux qui ont accepté cela sont sortis à chaque fois vainqueurs. Aussi nous appelons ces choses vraies et les acceptons comme propriété personnelle. Et nous cherchons à plaire en retour au Saint-Esprit. Ta parole est la vérité. Je refuserai tout autre symptôme, quoi que ce soit d'autre. Je crois que tu me guériras parce que ta parole, Seigneur, dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le guérira. C'est tout, c'est la vérité. Je me demande ce matin, je connais frère Jackson, je l'ai entendu dire Amen quelque part à l'arrière. Et je me demande s'il y aurait d'autres ministres ici qui croient en la guérison divine et qui aimeraient s'avancer, se ranger avec nous pour ces personnes-ci. Ils sont vos frères et vos sœurs en Christ. Voudriez-vous vous avancer pour prier avec nous, tandis que notre pasteur s'avance ici, s'il lui plaisait de prier pour les malades ce matin? Les autres, venez, prenez votre place ici avec nous, pendant que nous aiderons les nécessiteux qui sont parmi nous. N'importe qui d'entre vous, les ministres qui désirent s'avancer. Je crois avoir vu Teddy il y a un moment, si je ne m'abuse. Et tout autre ministre, qui que vous soyez, cela importe peu. Nous serions heureux de vous avoir ici, si vous êtes un croyant, pour vous joindre votre foi à la nôtre, comme nous prierons pour les gens qui sont dans le besoin. Je voudrais que les anciens s'approchent aussi, frère Higginbottom et les autres qui sont ici, pour vous occuper de la ligne, tandis que nous prierons pour eux et que nous les conseillerons. Les frères ministres, venez par ici maintenant si vous voulez. Nous prierons premièrement pour ces deux personnes assises dans des chaises, ensuite nous nous occuperons des autres. Et à tous les autres qui sont en bon terme avec le Seigneur Jésus, et vous devriez tous l'être ce matin, je désire que vous vous joigniez à nous. Et je pourrais être votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, et vous désireriez qu'il soit guéri. Et c'est votre foi, la projection de votre foi, sortant comme un grand dynamo d'ici qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu et qui oint de foi l'individu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant, le Saint-Esprit est ici pour injecter ou la parole de Dieu dans votre cœur que vous avez accepté, et c'est quand vous y croyez que vous vous avancez. Maintenant, quel est mon devoir ainsi que celui des ministres? D'imposer les mains sur vous. La prière de la foi sauvera le malade, a dit Dieu. Ensuite, vous ne prenez que cela et vous rendez l'amour au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ta parole est véridique. Je ne suis désormais plus malade. Je prends du mieux de jour en jour. Je te remercie, Père Céleste, de tes bontés à mon égard. Je prends constamment du mieux d'heure en heure. Surveillez ce qui prend place. Comme vous faites l'amour, comme vous rendez à votre tour l'amour au Saint-Esprit qui vous couvre par la parole. Je vais prier à l'instant. Ensuite, nous viendrons imposer les mains. Père, Dieu, tu vois les besoins. Et nous sommes certains que tu es plus que capable de suppléer à tous ces besoins. Toi qui sus prendre Daniel de la fosse au lion et les enfants hébreux de la fournaise ardente, qui sus ouvrir la mer rouge pour laisser passer le peuple à sec, qui sus ressusciter Lazare des morts et prendre Élie sur un char à sa demeure, ô Dieu, tu n'as jamais failli. Et ces outres neuves, pleines de vin nouveau, celles qui sont habitées d'un espoir nouveau et d'une vie nouvelle, sont venues ce matin pour être ointes, pour qu'on leur impose les mains en commémoration de la parole. Et Père, en tant qu'homme, nous leur imposons les mains, comme tu nous l'as commissionné. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Cette commission est aussi vitale dans l'Évangile que de prêcher l'Évangile. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous prions, Père, que tu permettras à ta parole d'être accomplie dès aujourd'hui sur la confession de ces personnes qui sont venues avec leur foi pour la tester contre la puissance du diable. Laisse-les repartir libres, chacun d'entre eux, au nom de Christ. Vous gardez la tête baissée comme nous allons vers ceci. Notre bien-aimée sœur, dans la fraternité du Seigneur Jésus, en tant que ministre de la croix, comme divin participant à la bénédiction de la résurrection, en commémoration de sa parole, nous demandons à ce que le méchant vous quitte au nom de Jésus, et puissiez-vous être guéri. Puisse votre foi ne jamais décroître, mais puissiez-vous vous sustenter de Dieu des faveurs du Saint-Esprit. La force de Dieu qui vous a fait naître de la poussière de la terre et qui a disposé chaque organe dans votre corps est plus que capable de réparer ce qu'il a créé, là où Satan a fait le dommage. Nous vous présentons à Dieu en tant que croyants dans le nom de son Fils Jésus. Et pour notre frère, sur qui nous imposons les mains avec la même prière devant Dieu notre Père et par l'onction du Saint-Esprit et la commission que ces choses doivent être faites, nous, en tant que ministres croyants, nous vous présentons à Dieu le Saint-Esprit qui vous a tiré des entrailles de la terre et a placé dans votre corps chaque organe. Et voyant que Satan est descendu à interrompre, détruire votre corps aussi, que sur la de ces gens à l'autel ou sur, nous demandons que Dieu vous donne sur cette obligation sacrée. Nous imposons nos mains sur vous pour commémorer la parole, ne connaissant pas votre cœur, mais nous demandons que le Dieu Tout-Puissant qui vous a fait naître de la terre réparera ou fortifiera les parties faibles et vitales de votre corps et qu'il vous ramènera à une parfaite santé au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant et Omnipotent, l'Éternel, l'Omniprésent, l'Omnipotent, toi qui remplis tout l'espace, nous imposons nos mains sur notre sœur, l'introduisant à toi avec la même prière que celle que nous avons prononcée pour les autres, que tu accompliras en son corps qui souffre d'insuffisance due à l'infraction du diable et pour la gloire de Dieu. Père Dieu, nous imposons de la même façon nos mains sur notre sœur avec la même prière qui nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Père Dieu, sur le corps de cet homme qui, à cause du poids des âges, a les épaules courbées, le visage ridé et le corps blessé, mets-toi, ô Dieu, qui est le favorable Saint-Esprit, nous te le remettons au nom de Jésus. Puisse le Saint-Esprit se répandre dans son grand amour et puisse-la faire que nous reconnaissions que celui qui l'a tiré de la terre répare aussi ce qu'il a créé.